Bonjour à tous. Alors, je vais faire la même chose en philosophie que Jeshuan en mathématiques. Je propose, comme vous êtes assez nombreux, on était parti sur une discussion ouverte, mais vu le nombre, je me permets d'introduire le propos de manière un peu plus conférencée, pendant une petite heure et demie. Une demi-heure peut-être, max. Et ensuite, on en discute. Et vous dire tout d'abord que mon travail, c'est pas de prendre position s'il faut fermer, oui ou non, une école. D'ailleurs, moi, je trouve ça plutôt chouette qu'une classe ferme. Ça a l'air assez sympa. Les mauvaises nouvelles chez vous, vous les prenez plutôt bien. Et il y a sûrement une interrogation vraiment purement humaine et donc philosophique derrière ce type d'annonce. Comment se fait-il que la fermeture d'une classe ou d'une école fasse toujours événement dans une commune? On voit ça dans la presse, ou vous entendez ça aux informations, où on annonce les fermetures un peu comme un body count, voilà, tant d'écoles fermées. Il y a une certaine tristesse dans ce type d'annonce. À quoi cela tient-il? Parce qu'on pourrait se dire que les territoires, la démographie, les budgets, tout ceci évolue et il y a un principe en éthique, c'est-à-dire sur la façon de s'organiser collectivement. Et ce principe éthique, c'est l'égalité. Dans un sens vraiment très technique, l'égalité, c'est tout d'abord s'assurer qu'il y ait une juste répartition des moyens. Alors, c'est frustrant, effectivement, de se rendre compte qu'on a été l'objet d'une évaluation et qu'il y a eu une sélection. Alors, des fois, de manière un peu péjorative, on appelle ça un tri, et d'être dans le lot de ceux qui n'ont pas été sélectionnés ou de ceux qui ont été triés de manière plus négative. Il est légitime d'interroger les critères de cette évaluation. Par exemple, la fermeture d'une classe, c'est quelque chose qui n'est pas fait au hasard. Il y a une réflexion sur la répartition la plus juste possible des moyens. L'égalité des moyens touche l'école, ça touche l'hôpital et toute la fonction publique et les institutions de manière générale. Toutefois, le principe de justice ou d'égalité ne postule pas, n'a jamais postulé la même chose pour tout le monde. Le principe d'égalité ou de justice, c'est plutôt un principe d'équité, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit revenir à un tel ou à un tel, c'est-à-dire que les choses doivent être distribuées en fonction ou à proportion des besoins. Donc on distribue de manière proportionnée, mais à qui? Et c'est peut-être là que se noue la difficulté ou le dilemme, c'est que vous pouvez vous demander, est-ce que l'école n'est finalement pas devenue une variable d'ajustement dans une économie de la dette? Mais je pense que toutes les administrations pourront avoir ce même sujet de préoccupation. On pourrait aussi dire assez clairement, pourquoi maintenir une école ou une classe si le maintien empêche d'ouvrir des classes dans d'autres écoles qui en ont davantage besoin pour des raisons de surcharge d'effectifs ou de vulnérabilité des publics accueillis. Donc il y a peut-être derrière la fermeture de votre classe quelque chose de plus juste pour d'autres écoles ailleurs. Et je dis peut-être. Hein. Je bois un verre d'eau parce que je sens que ça peut être polémique. Ces questions-là font qu'il y a toujours une certaine dramaturgie dans cette annonce de fermer une classe ou de fermer une école. Il y a un dilemme éthique qui s'impose à nous. Parce qu'on pourrait réfléchir tout d'abord de manière qu'on appelle ça utilitariste. Je vous la fais vraiment en cours. Je joue avec une citation de Marc Aurèle, c'est toujours très philosophe, des citations de philosophes antiques. Et Marc Aurèle disait « Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille ». Autrement dit, parfois, pour organiser un bien collectif, il faut toujours penser à comment organiser ce bien collectif, l'organiser, sans que cela ne désavantage que ce soit, pas un seul individu, ce qui serait injuste. Ce serait de discriminer une partie de la population pour en avantager une autre, pour qu'il y ait un fonctionnement global qui soit acceptable. Si il n'y a, enfin dire, quelqu'un qui est défavorisé dans ce type de réflexion globale, on ne parle pas de justice, on ne parle pas non plus d'équité, parce qu'en fait, en réalité, il y a une rupture d'égalité. Mais là, on pourrait encore dire que la fermeture d'une classe n'empêche pas la continuité de l'école. Mais on va se demander, est-ce que c'est le même accès à l'éducation pour tous les enfants? Autrement dit, est-ce que les autres qui ont une école de proximité dans le village ou dans le quartier bénéficieraient d'une meilleure éducation que les autres? Et entre nous, si l'école d'ici ferme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir faire un déplacement de 3, 4 km, je ne sais pas combien de kilomètres, hein, pour aller mettre les enfants ailleurs. Donc autrement dit, il y a sûrement une réflexion qui est collective, une réflexion sur la justice, sur la répartition des moyens, probablement des mobilités qui pourront être conséquentes. Mais 3-4 km, est-ce que ça change véritablement la donne? La question, c'est celle-ci hein, qui était bien posée. À quoi bon finalement maintenir une école dans une commune? Voilà. Est-ce que le désavantage est si important que cela? Alors si on pense l'école comme un isolat, voilà, quelque chose de fermé, cela ne change finalement que le temps de trajet. Il y aura une navette qui sera mise en place pour vous permettre d'aller dans les autres communes. Quelque chose sera là pour compenser cette fermeture, même si la maternelle, la navette, ça peut poser quelques problèmes, on en convient. L'enfant sera accueilli ailleurs. Et on sait bien entendu que changer les habitudes, ça demande une réhabituation. Et dans toute réhabituation, il y a un coût psychique qui est important. Et que ça peut être un peu plus fatigant pour des personnes plus sensible à ça, ou plus vulnérable. C'est le terme qu'on emploiera plus tôt. Il faudra réinventer une vie, mais entre nous, cette déshabituation et cette réhabituation, elle aura lieu au collège, elle aura lieu au lycée, donc don't panic, ce que vous vivez là, vous le vivrez quoi qu'il arrive pour vos enfants à un moment ou à un autre. Là, c'est le premier discours que je peux vous tenir, où je vous dis, honnêtement, peut-être que ce n'est pas si injuste que cela, que dans une logique de distribution, c'est assez équitable en réalité, que les modifications de votre existence ne vont pas être fondamentales et qu'il y aura toujours une continuité de l'école pour vos enfants. Je vous ai pas convaincu ? Ouais. Ouais, fallait quand même que je le dise. Oui. Parce que on voit bien qu'il y a ce discours, et faut le prendre comme étant un discours sincère quand on vous le tient. Personne n'a intérêt à créer des ruptures, mais pour autant, les habitants à qui on annonce qu'il y a une fermeture d'une classe ou d'une école vivent ceci comme une rupture. Pourquoi ont-ils ce sentiment ? Je préfère parler de sentiments, autrement on va glisser sur des raisons objectives, de budget, de démographie, et c'est pas ma place. D'où vient ce sentiment? C'est que l'école n'est pas un module éducatif, c'est-à-dire un lieu déplaçable. Peut-être que c'est ça. Autrement dit, l'école, c'est une histoire avec un lieu. Et c'est là, en fait, que le dilemme se noue. Puisque c'est le lieu, parmi tant d'autres, parce que les enfants ont des socialisations multiples, mais c'est un des lieux importants de la socialisation de l'enfant, et il va attacher quelque chose de ses souvenirs dans l'expérience qu'il aura eue dans cette école. Et des souvenirs de ce lieu, eh bien, vous en avez probablement. C'est le petit bout de grillage que vous soulevez pour vous faire la malle de l'école. Et je ne sais pas s'il y a ça à l'Okénolé. C'est le lieu dans lequel on gratte les chewing-gums dans le macadam pour les mâchouiller à nouveau. Vous n'avez pas fait ça, vous? Je suis pas le seul, non, quand même. Si. Avec une fille qui s'appelait Géraldine, on mangeait plein de chewing-gum ramassés par terre, c'était génial. Ou faire des bracelets d'herbe tressés. Et vous voyez, quand j'y pense, ce sont mes souvenirs d'enfance et c'est attaché à un lieu. Bon, c'est pas pour parler de moi, mais ces souvenirs, ils sont pas dans ma commune de résidence. Ils sont ailleurs, à 5 km de là où habitaient mes parents. Je n'ai pas de souvenirs attachés à mon lieu de résidence. Alors, c'est pas grave, parce que des souvenirs, j'en ai eu d'autres, dans une autre commune, et c'était des bons souvenirs. Ça m'a pas empêché de faire des études. Mais n'y a-t-il pas quand même quelque chose qui pourrait être lié à l'histoire que nous avons avec le lieu? Résider, ça ne suffit pas. Puisque j'ai ce lieu, voilà, on va dire ce souvenir dans une école qui n'était pas dans ma commune, et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas de souvenir dans ma commune. Il n'y avait pas d'école. Enfin, il n'y avait plus d'école, pour être précis. Et dans ce lieu, les parents ne se rencontraient pas. La salle des fêtes a fermé. Les bars ont fermé. Le club de foot a fermé. En fait, les épiceries ont fermé. Il n'y avait rien. Et l'école dans laquelle j'étais a augmenté considérablement le nombre de classes. Au début, c'était un préfabriqué. Il y avait 3-4 classes. Maintenant, il doit y avoir 15 ou 16 classes. Et donc, ce lieu de socialisation, qui était la commune, en fait, était assez pauvre en interaction. Autrement dit, ce qu'on appelle, on va dire, en pédagogie ou en psychanalyse aussi, les grands autres. C'est-à-dire tous les adultes qui ont gravité autour de moi, auxquels j'ai pu m'identifier et qui m'ont transmis l'ensemble de ma personnalité, eh bien, ne sont pas des adultes, sauf mes parents, qui venaient de la commune. Mais ce n'est pas grave, ça s'est fait ailleurs. En quoi est-ce que ça peut être problématique? Puisque l'histoire avec le lieu, y vivre, c'est ce qui permet de se sentir davantage chez soi. Et il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier et qui peut paraître un peu conservatrice peut-être, mais il y a quelque chose comme une dimension de l'autochtonie, c'est-à-dire se revendiquer d'un lieu, se revendiquer d'être là. Et de démultiplier les endroits, eh bien, ça modifie considérablement le sentiment d'appartenance à un lieu. Est-ce que c'est important d'avoir un sentiment d'appartenance à un lieu? Il y a un philosophe que j'apprécie pour sa poésie qui s'appelle Bachelard. Et Bachelard, il dit, en fait, la maison, ce n'est pas un lieu précis. La maison, c'est quelque chose qui est plutôt initialement dans notre imaginaire. Autrement dit, cette maison, on l'embarque un petit peu partout dans notre existence. C'est cette maison imaginaire que l'on reproduit dans tous nos déménagements. Et cette maison imaginaire, en fait, elle vient du lieu, de notre terre natale, de l'endroit dans lequel il y a eu eh bien, toutes ces interactions. Ça, Pierrot ? Joli camion. Les Grecs, ça fait philosophe aussi, hein, les Grecs avaient un mot qui peut paraître un petit peu étrange et qui peut-être peut nous parler dans cette situation, un mot qui désigne ce que nous on appellerait la liberté. Le terme qu'ils emploient, c'est « eleutheria ». Et ce terme « liberté » chez un Grec ancien, il est assez étonnant parce que ça désigne bien la liberté, c'est-à-dire la capacité d'être autonome, c'est-à-dire de ne pas être commandé en permanence, mais de participer à toutes les décisions qui nous concernent. Autrement dit, la liberté pour eux, c'est la participation du citoyen. Et ce mot-là, il veut dire en même temps la terre. Autrement dit, comment voulez-vous être un citoyen qui participe à la transformation de son monde s'il n'y a pas un lieu? Si on est d'ici, d'ailleurs, de là, si les milieux de référence sont multiples, comment vivre cette eleutheria? La plupart des cultures dans l'histoire contemporaines, eh bien, ne peuvent pas du tout imaginer une installation dans des lieux éclatés. Ça n'existe pas. Alors, on voit bien que la fermeture des classes ou des écoles est porteuse d'une autre représentation, on va dire, de l'espace. C'est-à-dire qu'on pourrait... on voit bien qu'il y a quelque chose derrière ces décisions qui peuvent être logiques, qui peuvent être budgétaires, qui peuvent être démographiques, mais parfois, il ne faut pas aller vers ce glissement-là, il y a l'idée que finalement l'espace dans lequel nous vivons est un espace homogène, dans lequel les individus, sans aucune forme de préférence, eh bien, peuvent être mobiles. C'est-à-dire que je suis dans un espace qui favorise simplement la circulation des biens et des personnes sans aucune forme d'attachement ou d'affiliation particulier à un lieu. On sent bien que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette doctrine pour penser des déplacements de population en fonction des besoins. Il y a un philosophe qui s'appelle Foucault, il dit que cette façon administrée de gérer les vies humaines, cela s'appelle le biopouvoir. Autrement dit, ce que vous êtes véritablement en lien avec les formes d'attachement, c'est compliqué parce que ça vous rend résistant à toute forme d'injonction. Par contre, nous faire penser que les espaces sont homogènes et que Brest vaut bien Morlaix ou que Loquenolé vaut bien toutes les communes que vous avez évoquées tout à l'heure, eh bien, c'est penser qu'au fond, votre vie se réalisera de la même manière partout où vous allez. Autrement dit, le lieu a quand même une importance. Alors peut-être vous allez me dire, c'est une vision un petit peu pagnolesque de l'école ou des communes, même si c'est pas mal, Marcel Pagnol, en soi. Mais il y a surtout un autre élément. Je résume très rapidement les deux premiers. Le premier élément, c'est de dire, bon, il y aura quand même des solutions de continuité pour la scolarisation des enfants. Ça semble indéniable. Et ce qui peut être fait sera fait. Et parfois, il y a des raisons d'équité. Simplement, postuler que les personnes peuvent être mobiles sans qu'il y ait d'impact sur leur identité, sur leurs relations, sur leur interaction, sur leur mode de socialisation, c'est bien mal connaître l'être humain. Nous sommes beaucoup plus enracinés que nous l'imaginons, tout du moins nous cherchons une terre hospitalière, tout simplement. Il y a une autre dimension, je m'adresse peut-être plus aux parents, parce que là on parlait un peu des enfants, c'est que les parents agissent en stratège. C'est une idée d'un sociologue qui s'appelle Lahir. Alors qu'est-ce que ça veut dire un parent stratège ? Un parent stratège, c'est celui qui se rend bien compte que l'enfant connaît des socialisations multiples et pas que les socialisations parentales. Autrement dit, vos petits là actuellement, ils sont dans un mode de socialisation multiple, il n'y a pas que l'école. Et on va se dire, eh bien c'est chouette, ça ouvre considérablement, mais ce que font les parents, tous les parents, eh bien, c'est que nous mettons en place un certain filtrage. C'est-à-dire que les enfants vont se faire influencer, mais les parents vont exercer un contrôle plus ou moins important sur les influences. Par exemple, on va se demander si c'est les bons copains. On va peser, en fait, dans le choix des copains. On va se demander si les programmes télévisés, qui sont aussi des modes de socialisation, sont les bons. Donc on va les orienter vers certaines pratiques culturelles. Ou alors le parent va être toujours un intermédiaire entre l'enfant et les professionnels de l'enfance. Autrement dit, ils offrent finalement les parents, dans ces socialisations, des ouvertures, bien entendu, mais ils proposent à l'enfant des résistances aux propositions, ce qu'on appelle des introjections. Ils offrent des résistances aux autres formes de socialisation. Autrement dit, cet enfant, vous pouvez le mettre dans n'importe quel environnement, ça reste votre enfant et vous allez l'orienter d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, vous allez introjecter chez l'enfant l'horizon de ce qu'il doit désirer. Il pourra accepter, il pourra refuser, il pourra composer, mais vous allez introduire la base à partir desquelles il va prendre un ensemble de décisions. Vous allez orienter ses goûts, ses affinités, sa façon d'être ami, les aspirations professionnelles, la pensée politique. Par exemple, vous allez peut-être voter dimanche, demandez-vous est-ce que je vote comme mes parents ? Alors, pourquoi je vous parle de ces modes de socialisation multiples ? Eh bien, c'est parce que l'école a un rôle central là-dedans. elle entre dans les stratégies parentales et le filtrage existe encore dans votre relation à l'école. Et cela commence déjà par le choix de l'école. Alors vous allez me dire, mais nous, on n'a peut-être pas eu le choix. Mais peut-être dans votre installation à Loquet-Nolay, eh bien, vous avez fait le choix d'un lieu dans lequel il y allait avoir une école et vous allez retrouver de manière non hasardeuse eh bien, des profils qui sont assez similaires aux vôtres. Autrement dit, vous avez déjà opéré cette opération de filtrage qui est liée à votre lieu d'installation. Et le risque, bien entendu, de ce filtrage, eh bien, c'est que, je ne sais pas comment est l'école de Loquet-Nolay, enfin, je suis allé une fois, mais je ne peux pas juger, vous me direz, le risque de ce filtrage, c'est qu'on se retrouve avec des écoles qui ne soient finalement qu'un entre-soi, dans lesquelles il y a une forme de reproduction sociale, des statuts. Et l'école est justement ce lieu qui ne dupe personne. Et je ne parle pas du tout de ceux qui y travaillent et qui aspirent à autre chose. C'est que c'est déjà une stratégie de filtrage des parents et l'école peut avoir exactement aussi des stratégies de filtrage. Et on en reviendra peut-être quand on en discutera, mais il y a une sorte de consensus pour l'école française, du moins, qui nous fait penser que l'école est incapable de réduire en réalité les inégalités car elles viennent de plus loin que l'école et dans son mode d'apprentissage, on nous propose quand même des classements, des comparaisons, pour ne pas dire des compétitions, qui va déterminer la position future de l'enfant dans le monde social. Autrement dit, les parents ont déjà une tendance par le filtrage à générer de la reproduction sociale, et l'école n'est pas libre par rapport à ça. Dans son intention, bien sûr, elle ne veut pas ça. Mais dans sa réalité, hélas, dans le constat des études, eh bien, elle est plutôt dans la reproduction. Autrement dit, ce que l'on observe, c'est que les inégalités sociales se traduisent en fait en inégalités scolaires. Et que ces inégalités scolaires eh bien, vont faire que l'enfant va intérioriser une place qui lui semblera légitime. Une fois, j'ai vu une conférence où il y avait des gens déguisés qui sont apparus comme ça derrière tout d'un coup. C'était très déstabilisant. Et, autrement dit, le risque, ou ce qui se passe, c'est que l'enfant peut aussi, eh bien, par ce lieu de socialisation qui est l'école, intérioriser une place sociale qui est souvent assez concordante avec les filtrages qu'ont opéré les parents. Donc il y a une alliance entre parents et école, mais peut-être pas celle qu'on pensait, en réalité. La personne que je citais tout à l'heure, qui s'appelle Lahir, parle effectivement d'un façonnage social de l'enfant. Et là où il y a vraiment une particularité, c'est qu'auparavant, l'école, on va dire avant le XXe siècle, hein, très clairement, et le début, ne déterminait pas l'entrée dans l'emploi et pas de lien particulier entre école et travail. Ce que l'on voit, et c'est assez récent, c'est que l'école façonne notre relation au travail et joue un rôle déterminant dans l'insertion professionnelle. Si la reproduction de l'inégalité était en fait un fait familial dans les siècles précédents, on sait que maintenant, elle est épaulée par l'école. La scolarisation massive, c'est comme ça que l'on appelle le phénomène actuel, détermine des destins scolaires qui sont statistiquement des reproductions de classe. L'école, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et ce n'est pas le but de l'école, ce n'est pas la stratégie de l'école. On va dire que c'est une inertie d'un système très hiérarchisé qui précède notre volonté scolaire. Enfin, en tout cas, je pense que personne d'entre nous dit bah, « c'est chouette ce qu'il dit parce que je suis à fond avec lui, j'y pense à mort ». Platon, par exemple, pensait que c'était le but de l'éducation, c'était de voir qui a une âme d'airain, qui a une âme d'argent, qui a une âme d'or. Voilà, et l'éducation ne servait qu'à trier des natures. Eh bien, figurez-vous que 2500 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé. On trie des natures. Autrement dit, l'évolution des parcours ou des trajectoires sociales d'un enfant en fonction de son origine, elles sont très faibles, elles sont à la marge. Alors on va sortir une excellence, un cas particulier pour dire « Regardez, c'est l'école de la République ». Il y a des exceptions, évidemment, mais est-ce qu'on peut... en tout cas, on ne le repère pas statistiquement. On ne le repère pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on ne le repère pas. Et c'est peut-être ça que les parents, parfois, opèrent. Ils veulent être proches de l'école. Là, je suis un peu... C'était quoi la langue de vipère? Ouais, je fais la langue de vipère. Mais parfois, il y a des parents qui sont proches de l'école parce qu'ils veulent avoir la main mise sur l'école ou avoir une entrée dans l'école pour profiter des avantages de ce type de scolarisation pour maintenir leur place dans des organisations du pouvoir. Autrement dit, ils cherchent dans l'école une reproduction et l'entre-soi. Donc parfois, et là c'est encore la langue vipérine, dire que des écoles gagneraient en mixité à être peut-être réduites, fermées, déplacées, ça peut avoir du sens. Ça peut, je ne dis pas que ça. Et il y a une autre façon. Je suis sûr que vous êtes comme ça, parce que vous êtes sympa, parce que vous allez me payer un coup après, surtout. On peut aussi vouloir continuer dans ce filtrage parental, justement pour corriger cette caractéristique de l'école ou pour contrarier cette tendance à la reproduction sociale qui peut être dans l'école. Et il y a fort à parier que les instituts que je ne connais pas personnellement ne se reconnaissent pas dans le discours que je viens de dire précédemment. Par contre, peut-être on sent, et c'est ce qui ressort des enquêtes que j'ai pu mener avec les instituts, cette inertie qui fait qu'il y a cette forme de reproduction. Alors, comment penser la place de l'école ou pourquoi une école ? Peut-être qu'il y a dans cette organisation d'aujourd'hui une conscience quand même que l'école, ça peut être ça. Conscience également que l'école, c'est un lien avec un lieu, c'est ce qui fait la commune, mais pas que la commune, c'est aussi les identifications de l'enfant et ses modes de socialisation réellement. Et que les investir dans un espace que l'on pense comme homogène, où tout le monde est déplaçable, avec des écoles qui concentrent les enfants dans des lieux sans lieu anonymes, ça va probablement favoriser les inégalités scolaires. Autrement dit, si la massification de l'école, tout le monde pour une éducation, ça c'est super, par contre la concentration dans des lieux sans lieu, ça va forcément, et je le dis, on peut en discuter, augmenter des inégalités. Et l'école peut être ce vecteur-là, et c'est d'autant plus inquiétant qu'elle a déjà structurellement cette tendance-là. Donc pour l'éducation, il y a sûrement plein de choses intéressantes dans le déplacement d'une école ou les fermetures, mais là c'est un problème de fond. Donc il y a une inquiétude peut-être vive. Alors la question c'est, faut-il conserver des petites écoles au plus près de ces modes de socialisation. Et c'est peut-être là qu'on se demande qu'il y aurait peut-être que quelque chose à perdre à ces types de fermetures ou de déplacements. Alors, vous allez me dire, il fait la promotion finalement d'une école communale. Tout simplement. Tout ça pour ça, vous allez dire. C'est pas tellement ça, parce qu'il faut entendre les arguments du coup, mais effectivement, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à orienter les choses vers une redéfinition de l'école, hein, peut-être un petit peu ce que vous défendez. Et cette idée, je l'analyse juste avec une pensée d'Anna Arendt. Elle se demande comment agir, c'est quoi une action ? Et elle dit... et je trouve ça peut être assez intéressant pour nous. Parfois, quand on n'a pas trop d'idées, l'action à court terme nous donne l'impression d'agir. Correction budgétaire, démographie, on bouge, paf, paf, coup de barre en permanence. C'est un coup à faire chavirer le bateau. Et les stratégies qui sont les plus profitables sont en réalité des stratégies sur le long terme. En réalité, elle donne un exemple tout bête d'un propriétaire qui se dit « Bon, moi, j'ai investi dans un appartement, mais je ne vais pas trop faire de travaux, de rénovation, parce que je veux en avoir pour mon argent le plus rapidement possible. » Le locataire, lui, dit « J'aimerais bien un logement qui soit le plus digne possible. » Ce que dit Hannah Arendt, alors, je ne sais pas si la comparaison marche, c'est que si ce propriétaire ne crée pas un logement digne, à terme, ce logement ne lui apportera rien. Par contre, s'il investit dans quelque chose de digne, à long terme, c'est ce logement qui lui apportera le plus et ça apportera également le plus aux locataires. Autrement dit, le long terme inverse les logiques de l'équité. Autrement dit, pour une égalité des chances, c'est une expression d'un philosophe qui s'appelle John Rawls, qu'on a repris en France. Pour une égalité des chances, il faut réfléchir à long terme. Et ça, peut-être on pourra en discuter, mais dans une réflexion à long terme, ce qui semble être le mieux établi, c'est qu'une société est d'autant plus harmonieuse que l'on commence à un moment donné par favoriser les plus mal lotis. Je vous donne sa démonstration, elle est... étonnante. Il propose une expérience de pensée. Il appelle ça le John Rawls un voile d'ignorance. Imaginez, que nous sommes ceux qui vont faire la loi. Mais je vous connais tous, les uns et les autres. Vous allez protéger vos intérêts personnels. Voici l'hypothèse de Rawls. Autrement dit, si vous êtes homme, femme, si vous êtes valide ou invalide, si vous êtes de telle génération ou de telle autre, vous allez forcément réfléchir à comment est-ce que la loi peut m'apporter un certain bénéfice. Eh bien, tout ça, on va l'annuler par une expérience de pensée, ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Imaginez que vous êtes dans la situation où vous allez devoir voter ou penser une loi. Et dans ce voile d'ignorance, vous ignorez tout de votre situation actuelle. Votre âge, votre sexe, valide, pas valide, votre état de santé, vous ne savez rien. Et on vous demande, maintenant réfléchis à ce qui serait la loi la plus équitable. Et comme vous ne savez pas quelle est votre situation, vous allez vous dire, mais quand je vais passer sur le plan du réel, tout ce que je vais avoir pensé en termes de loi, ça va me concerter. Et si je n'ai pas la bonne situation, si c'est moi le vulnérable, si c'est moi le fragile. Donc, dans un voile d'ignorance, ce que l'on fera systématiquement, c'est qu'on va tout d'abord protéger les plus faibles, les plus mal lotis. Et son idée, c'est que si cette façon de penser protège ce qui est fragile, eh bien, les autres, ils diront, mais pourquoi est-ce que je me tracasse à protéger mes intérêts, puisque quoi qu'il arrive, eh bien, les sécurités élémentaires sont assurées. Alors cette idée de rôle, elle me fait penser à votre situation, c'est que les communes rurales sont peut-être plus fragiles sur ce plan-là, ou démographiquement, ou économiquement, et se dire en raison de cette vulnérabilité, eh bien on va prendre des décisions qui vont les fragiliser encore plus, c'est prendre un risque important à long terme. Alors que la protection de cette vulnérabilité peut-être maintenir une vie, dans les communes, par l'école et d'autres choses qui sont afférentes, eh bien, c'est ce qui apportera peut-être plus de bénéfices à long terme. Moi, ce que je propose tout simplement, c'est chiche, essayons. Après, le long terme, je ne sais pas si on sera vivant, par contre, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, le long terme. Moi, j'ai beaucoup parlé. Oui. Bon, je vous remercie pour votre écoute et puis passons aux questions.